suite du comte d'Afanassiev va je ne sais où, rapporte je ne sais quoi. Page 143. De retour au palais, le roi fit appeler le commandant. « Écoute, tu as su me montrer la femme du garde. Dieu qu'elle est belle! Eh bien, débarrasse-moi de son mari. Je veux épouser la femme. Si tu ne me débarrasses pas du mari, tu as beau être un fidèle serviteur, tant pis pour toi et tu finiras pendu, la corde au cou. » Accablé, le commandant quitte le roi. Comment venir à bout du garde? Il n'en a pas la moindre idée. Il avance par des ruelles désertes, emplies d'ombres et de recoins. Au devant de lui marche la Baba Yaga, la sorcière. Baba, B-A-B-A, Yaga, Y-A-G-A.
« Arrête, serviteur du roi !» s'écrie la Baba Yaga. « Je n'ignore aucune de tes pensées les plus secrètes. Si tu veux, je détournerai de toi le danger qui te menace. »«
Aide-moi, grand-mère, ton prix sera le mien, » répond le commandant.
« Tu as reçu du roi l'ordre de tuer le garde Fiodor. En lui-même, il n'est pas tellement dégourdi. Et ça ne serait pas bien difficile s'il n'avait pas une femme qui, elle, est joliment maligne. Mais attends. » Nous allons leur jouer un tour de ma façon. Ils ne s'en remettront pas si facilement. Retourne chez le roi et dis-lui, par-delà 3 x 9 pays, dans le 3 x 10e royaume, il est une île. Dans cette île vit le cerf aux cornes d'or. Que le roi réunisse 50 marins, tous des ivrognes, tous des coquins. Qu'il fasse remettre à l'eau le vieux bateau pourri qui pourri depuis 30 ans, qu'il donne à Fiodor d'embarquer et d'aller chercher le cerf aux cornes d'or. D'ici jusqu'à l'île, le voyage dure tout juste 3 ans. 3 ans pour aller et 3 pour revenir, ça fait 6 ans. Le bateau est si vieux, si abîmé, qu'il ne tiendra pas plus d'un mois. Et quand il coulera, garde et marins, tous iront au fond de l'eau et seront noyés. « Bon débarras !»
Le commandant écouta attentivement la Baba Yaga et la remercia, la récompensa en or et courut chez le roi. « Sire, dit-il, je sais comment venir à bout du garde. » Le roi trouva bon le stratagème et commanda de préparer le vieux bateau pourri, de le charger de nourriture pour 6 ans et d'y mettre 50 marins, tous des ivrognes, tous des coquins. Les messagers firent tous les cabarets, tous les cafés, tous les tripots, et réunirent un étrange équipage. Il n'y avait là que des gros nez rouges, que des gueules cassées. Dès que le navire fut prêt, le roi fit venir le garde. « À toi, Fiodor, » dit le roi. « Fiodor, qui est le meilleur de mes gardes, le plus habile de mes tireurs d'élite, j'ai un service à demander. » Va par-delà 3 x 9 pays, dans le 3 x 10e royaume. Là-bas se trouve une île où vit le cerf aux cornes d'or. Empare-toi de lui et ramène-le-moi vivant. Le garde réfléchit. Il ne sait pas que répondre. C'est tout réfléchi, dit le roi. Si tu ne le fais pas, de mon sabre, je te coupe la tête. Fiodor fit demi-tour à gauche et sortit du palais. Sur le soir, il rentra à la maison tout triste et refusant de parler. Sa femme le questionna. « Tu as l'âme en peine, mon chéri? Quel chagrin est le tien ? » Il ne lui cacha rien. « Et c'est pour cela que tu tronches les sangs ? Mais voilà qui n'est pas bien sorcier. Allons, fais ta prière et va au lit. Tout ira mieux demain matin, tout sera prêt. » Une fois le garde couché et endormi, sa femme ouvrit le livre magique. Et devant elle surgissent les deux gaillards.
« Qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Allez par-delà 3 x 9 pays, dans le 3 x 10e royaume, cherchez le cerf aux cornes d'or et ramenez-le-moi. »«
À vos ordres, à la pointe du jour, tout sera prêt. »
En un tourbillon, ils foncèrent jusqu'à l'île, s'emparèrent du cerf aux cornes d'or, le rapportèrent. Une heure avant l'aube, tout était terminé et ils s'éclipsèrent comme si jamais ils n'avaient existé. Plus tôt que de coutume, le garde fut réveillé par sa femme qui lui dit « Va voir, le cerf aux cornes d'or est dans la cour. Prends-le avec toi sur le navire, navigue 5 jours entiers et retourne le 6e. » Le garde emprisonna le cerf dans une caisse bien fermée qu'il chargea sur le bateau. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent les marins.
« Oh, des victuailles, des provisions. La route sera longue. Qui sait ce dont nous aurons besoin ?» dit le garde.
Le moment des adieux était venu. Une foule nombreuse s'était amassée sur le quai. Le roi nomma Fiodor capitaine du navire et il assista en personne au départ. Le navire vogua sur l'onde 5 jours entiers. Il y avait déjà longtemps que le rivage s'était évanoui à l'horizon. Alors, le garde Fiodor commanda de rouler sur le pont un énorme tonneau et dit aux marins « Allez-y, les amis, n'écoutez que votre soif, buvez, buvez tant que vous le voudrez !» Les marins ne se le firent pas répéter. Ils se jetèrent sur la vodka, un alcool très fort qu'on boit en Russie, et bientôt tombèrent ivres-morts. Pendant qu'ils dormaient, en cuvant leur vodka, Fiodor saisit le gouvernail, tourna la barre et prit le chemin du retour. Pour que les marins ne se doutent de rien, le voilà qui continue à les saouler. Dès que l'un se frotte les yeux et se réveille, il voit devant lui le tonneau, rien que pour se faire passer le mal de cheveux. Le 11e jour, le navire entra dans le port, hissa le pavillon, son drapeau, et tira au canon. Le roi entendit les coups de canon, courut jusqu'au quai. À la vue du garde, il devint rouge de colère. « Comment ? D'où te vient l'audace de rentrer avant la date ?»«
Et que vouliez-vous que je fasse, votre majesté ?»«
Il y a peut-être des fainéants qui se plairaient à naviguer 10 ans de suite, et tout cela pour rien. Mais nous, il nous suffit de 10 jours pour accomplir notre mission. »
« Auriez-vous l'obligeance de jeter un coup d'œil au cerf aux cornes d'or ?»
Sur le champ, on apporte la caisse, on libère le cerf. Le roi vit que le garde avait dit vrai, qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Il le laissa rentrer chez lui et donna 6 ans de congé aux marins, défendant à quiconque de leur réclamer les années de travail déjà accomplies. Le lendemain, le roi accabla le commandant de reproches.
« Comment, dit-il, tu te moques de moi, à croire que tu ne tiens pas beaucoup à ta tête ? Tu vas te débrouiller pour manigancer une ruse qui nous débarrasse une fois pour toutes du garde Fiodor. »«
Laissez-moi y songer, votre majesté, » répondit le commandant. « Ça pourra peut-être s'arranger. »
Le commandant avance par les ruelles étroites, emplies d'ombres et de recoins. Au-devant de lui marche la Baba Yaga, la sorcière.
Arrête, serviteur du roi. Je connais tes pensées les plus secrètes. Si tu le veux, je puis te venir en aide.
Oh, je t'en prie, grand-mère. Le garde est revenu et il a ramené le cerf aux cornes d'or.
Je le sais. Lui-même, il est plutôt nigo. Et venir à bout de lui serait aussi facile que de briser une pincée de tabac. Mais sa femme, elle est rudement maligne. Peu importe. Nous allons lui jouer un tour qu'elle ne déjouera pas si aisément. Va voir le roi et dis-lui d'envoyer le garde, je ne sais où, rapporter je ne sais quoi. Bien malin qui y parviendra. De deux choses l'une, ou il disparaît pour toujours, ou il revient bredouille, sans rien.
Le commandant donna de l'or à la vieille et courut chez le roi. Le roi prêta l'oreille et fit appeler le garde.
« Approche, Fiodor, dit le roi, toi le meilleur de mes gardes, le plus habile de mes tireurs d'élite. Tu m'as rendu un service, tu m'as ramené le cerf aux cornes d'or. Je veux t'en demander un autre. Va je ne sais où, rapporte je ne sais quoi, et souviens-toi, si tu n'y parviens pas, de mon sabre je te coupe la tête. »
Le garde fit demi-tour à droite et sortit du palais. Il regagne le logis, triste, abattu. Sa femme le questionne.
« Qu'as-tu, mon chéri? Tu as du souci? Raconte-moi ton chagrin. »«
Oh là là, dit-il, à
peine suis-je quitte d'une corvée, qu'en voilà une autre. Le roi m'envoie je ne sais où, chercher je ne sais quoi. Et tout c'est ma douleur qui me tombe dessus à cause de ta beauté. Eh bien, cette fois-ci, dit la femme, voilà qui n'est pas facile du tout. 9 ans pour aller, 9 pour revenir, ça fait 18 ans. Et cela servira-t-il à quelque chose? Qui le sait? Que faire? Qu'entreprendre? Demande le garde. Fais ta prière et va te coucher, répondit la femme. La nuit porte conseil. Tu sauras tout demain matin. Le garde couché, sa femme attendit la nuit noire pour ouvrir son livre magique. Devant elle surgirent les deux gaillards.
« Qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Savez-vous comment aller je ne sais où, chercher je ne sais quoi ?»«
Non, nous ne le savons pas. »
Elle referma le livre et les gaillards disparurent. Au matin, la femme secoua son mari. « Va voir le roi. Demande-lui de l'or pour le voyage car tu pars pour 18 ans. Ensuite, tu reviendras me dire adieu. » Le garde se rendit au palais où il reçut un sac plein d'or et il revint dire adieu à sa femme. Celle-ci lui donna une longue serviette brodée et une boule. Une fois hors de la ville, lance cette boule devant toi et suis-la. Elle te montrera le chemin. Et puis, prends cette serviette. Ouvrage de ma main, où que tu sois, ne te sers que de cette serviette pour t'essuyer le visage. » Le garde prit congé de sa femme et de ses camarades. Il s'inclina aux quatre coins et franchit la porte de la ville. Il jette la boule devant lui, la boule roule, et il chemine à sa suite. Au bout d'un mois, le roi fit chercher le commandant.
« Le garde est parti errer de par le vaste monde. » Pour 18 ans, dit le roi. Qui sait ce qui peut lui arriver en chemin? Il a beaucoup d'or, il peut être attaqué par des bandits qui le pillent et le tuent. Il y a de fortes chances pour qu'il ne revienne pas. Nous pouvons donc prendre sa femme. Prends mon carrosse, va à la caserne des gardes et ramène-la au palais.
Le commandant entra chez la belle et dit « Bonjour, belle rusée. Le roi te fait chercher. » Quand elle arriva au palais, le roi la reçut aimablement, courtoisement. Il la fit entrer dans une salle aux fresques d'or et lui parla ainsi.
« Veux-tu être reine? Je t'épouse. »
« Où a-t-on vu?
Où a-t-on jamais entendu, répondit la femme, que l'on épousa la femme d'un homme toujours vivant? Quel qu'il soit, tout simple garde qu'il soit, il est mon mari, de par la loi. Si tu ne veux pas m'épouser de gré, tu m'épouseras de force, s'écria le roi.
La belle ricana, frappa le sol, se transforma en tourterelle et s'envola par la fenêtre. Le garde, lui, suivait sa boule. Il traversa de nombreux royaumes, de nombreux pays. Quand il rencontrait un fleuve, la boule se faisait arche de pont. Quand il avait envie de dormir, la boule se faisait chaude couverture. Marcha-t-il peu, marcha-t-il longtemps? Compter, c'est vite fait, agir, c'est bien plus long. Toujours est-il qu'il gagna un somptueux palais. La boule roula jusqu'au portail et disparut. Le garde se demanda, faut-il entrer? Il prit l'escalier, monta à l'étage, et il fut accueilli par 3 filles, d'une beauté que nul ne peut décrire. « D'où viens-tu, brave homme ? » s'écrièrent-elles, « et que veux-tu ? » « Oh là, belle fille, vous ne pouvez donc pas me laisser souffler. Donnez-moi d'abord à boire et à manger, et mettez-moi au lit. Ensuite, vous me poserez des questions. » Aussitôt, elles dressèrent la table, le firent asseoir, le régalèrent, et le mirent au lit. Après avoir dormi tout son sou, le garde quitta son lit moelleux. Les belles filles lui apportèrent pour se laver une bassine d'eau de source et une serviette brodée. Il accepta l'eau mais refusa la serviette. « J'ai la mienne, j'ai ce qu'il faut pour m'essuyer, » dit-il. Les belles filles lui demandèrent, « Mais cette serviette, d'où te vient-elle? Dis-le-nous, brave homme. » « C'est ma femme qui me l'a donnée. Mais alors tu es marié à notre sœur. »
Elles s'en furent prévenir leur vieille mère. Au premier coup d'œil jeté à la serviette, celle-ci s'exclama « Mais cet ouvrage a été fait de la main de ma fille !» Elle se mit à questionner son hôte. Il lui raconta qu'il avait épousé sa fille et que le tsar, T-S-A-R, c'est-à-dire le roi, l'avait envoyé je ne sais où, chercher je ne sais quoi.
« Hélas, mon cher gendre, même moi, je n'ai pas entendu parler d'une telle merveille. Mais attends, dit la vieille, peut-être mes serviteurs le sauront-ils. »
Alors, montée sur le perron, la vieille cria
« Bête des bois et oiseaux du ciel !»
Et d'un seul coup, toutes les bêtes sortirent des bois, tous les oiseaux apparurent volant à tire d'aile.
« Soyez les bienvenus, bêtes des bois et oiseaux du ciel !» Vous autres, bêtes des bois qui courez de tous côtés, et vous autres oiseaux du ciel qui volez en tout endroit, sauriez-vous aller, je ne sais où, chercher je ne sais quoi ?
Bêtes et oiseaux répondirent d'une même voix.
Non, nous ne le savons pas.
La vieille les laissa retourner à leur fourré, à leur bois et à leur bosquet. Elle regagna sa chambre et sortit son livre magique. Quand elle l'ouvrit, devant elle se dressèrent deux géants.
« Vos désirs sont pour nous des ordres.
Fort bien, mes serviteurs fidèles, transportez-moi avec mon gendre au beau milieu de l'onde immense de la mer et tenez-vous là, debout, au plus profond du gouffre. »
Sur le champ, ils se saisirent de la vieille et du garde, les enlevèrent dans un tourbillon puissant et se plantèrent au beau milieu de l'onde immense de la mer, au plus profond du gouffre. Là, comme deux colonnes, ils se tiennent debout, portant le garde et la vieille. La vieille cria d'une voix tonnante. Et tous les poissons et les bêtes aquatiques nagèrent vers elle. Ils vinrent si nombreux qu'ils recouvrirent le bleu de l'onde.
Salut à vous, poissons et bêtes aquatiques, vous qui nagez en tout lieu, il n'est île que vous ne connaissiez. Savez-vous comment aller, je ne sais où, chercher je ne sais quoi ?
Tous les poissons et les bêtes aquatiques répondirent d'une même voix.
Non, nous ne le savons pas.
Tout soudain, en avant des autres, se faufila une vieille grenouille bancale qui vivait isolée depuis plus de 30 ans et qui dit
« Couac, couac, je sais où se trouve une telle merveille !»«
Eh bien, ma chère, c'est de toi que j'ai besoin, dit la vieille. »
Et prenant la grenouille dans la main, elle ordonna aux géants de les ramener à la maison, elle et son gendre. En un tournement, ils étaient de retour au palais.
« Comment mon gendre ira-t-il jusque-là ?»
La grenouille répond.
« C'est un endroit au bout du monde, très très loin. Je l'y conduirai bien, mais je suis si vieille que j'ai du mal à traîner mes pattes. J'y mettrai 50 ans et encore. »
La vieille apporta une grande boîte qu'elle garnit de lait frais, y déposa la grenouille et la remit à son gendre.
« Tu porteras la grenouille à la main, dit-elle, et elle te montrera le chemin. »
Le garde prit la boîte, dit adieu à la vieille et à ses filles, et se mit en campagne. Il marche, et la grenouille lui montre le chemin. La route fut-elle brève ou longue ? Le temps passa-t-il vite ou long ou non ? Compter c'est vite fait, agir c'est bien plus long. Toujours est-il qu'il gagna le bord d'une rivière de feu. Par-delà la rivière se dressait une haute montagne, dans laquelle se dessinait une porte.
« Couac, couac !» fit la grenouille. « Il nous faut passer. Pose-moi à terre. »
Le garde obéit.
« Allons, vaillant gaillard, monte sur mon dos, sans crainte de m'écraser. »
S'asseyant sur la grenouille, le garde allait l'écraser contre la terre quand elle se mit à enfler. Elle enfla jusqu'à devenir aussi grosse qu'une meule de foin. Et le garde n'eut plus alors qu'une idée en tête.
Pourvu que je ne tombe pas et je me romprai les os.
Une fois bien gonflée, la grenouille bondit et d'un bond traversa la rivière de feu. Puis elle reprit sa taille première.
À présent, vaillant gaillard, entre par cette porte pendant que je t'attends dehors. Tu pénétreras dans une grotte. Une fois là, cache-toi bien et ne bouge plus. Deux vieux ne vont pas tarder à arriver. Ne perds pas un mot de ce qu'ils vont dire et faire. Et quand ils seront partis, agis comme eux.
Rendu au pied de la montagne, le garde poussa la porte. Dans la caverne, il faisait noir comme dans un four. Il avança en tintonnant, palpa une armoire vide, y prit place et referma la porte derrière lui. Au bout de peu de temps, deux vieux entrèrent et dirent
« Oh lâche, Matrazoum ! Donne à manger !»
Schmatrazoum s'écrit C-H-M-A-T, trait d'union R-A-Z-O-U-M. Tu sauras un peu plus tard quel est ce personnage, mais tu t'en doutes déjà. Subitement, des lustres s'allumèrent, assiettes et places entrechoquèrent et différents vins et mets apparurent. Les vieux mangèrent et burent leur content, puis ils commandèrent.
« Oh lâche, Matrazoum, tu peux tout remporter !»
En un rien de temps, 20 plats, tout disparut. Puis les lustres s'éteignirent. Le garde entendit sortir les deux vieux. Il quitta l'armoire et cria
« Oh lâche, Matrazoum !
À vos ordres ! Donne à manger !»
Les lustres allumés, la table mise, les boissons et les plats prêts à être dégustés réapparurent. Le garde se mit à table et dit
« Oh lâche, Matrazoum ! Viens t'asseoir près de moi, l'ami ! Buvons et mangeons ensemble ! Ce sera plus gai !»
La voix invisible s'exclama.
« Ah, brave homme, quelle est la bonne fortune qui t'envoie ? Cela fait bientôt 30 ans que je sers fidèlement ces vieux, et pas une seule fois ils n'ont songé à m'inviter. »
Le garde, lui, n'en croit pas ses yeux. Il n'y a toujours personne, et pourtant la nourriture est comme balayée des assiettes. Les bouteilles se soulèvent, se versent dans les verres qui se vident les uns après les autres. Une fois bien restauré, le garde dit.
« Écoute, Schmatrazoum, veux-tu me servir ? Il fait bon vivre avec moi.
Bah. »« Ah, et pourquoi non ? Il y a bien longtemps que j'en ai assez d'être ici, et je vois que tu es un brave homme.
Alors range tout et en route. »
Au sortir de la grotte, le garde était seul.
« Schmatrazoum, tu es là ? » ?»«
Oui, n'aie crainte, je te suis. »«
Bien. » »«
Bien, dit le garde, et il monta sur la grenouille. La grenouille enfla, 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 et retraversa la rivière de feu. Il la mit dans la boîte et prit le chemin du retour. En arrivant chez sa belle-mère, il offrit un somptueux festin à la vieille et à ses filles. Schmatrazoum les régala si copieusement que la vieille en dansa presque de joie et qu'elle commanda que soient servis chaque jour 3 bidons de lait à la grenouille. Le garde dit adieu à sa belle-mère et s'en fut. Il chemine, il tombe de lassitude.
« Ah là là, Schmatrazoum, dit-il, si tu savais comme je suis fatigué, mes jambes ne me portent plus. » Que ne le disais-tu plus tôt ? Il y a longtemps que je t'aurais ramené chez toi. »
Et une bourrasque enleva si brusquement le garde à travers les airs qu'il perdit son képi.
« Oh lâche, Matrazoum, une minute, mon képi !»«
Trop tard, maître, il est à 1000 lieues derrière nous. »
Les villes et les villages, les rivières et les bois défilent. Voici que le garde survole un lac profond. Schmatrazoum lui dit
« Veux-tu que je te fasse une tonnelle, une petite cabane en or ? On pourrait s'y reposer et tenter notre chance. »
« Allons-y, dit le garde. »
Aussitôt, il se mit à descendre vers les flots. Les vagues se soulevèrent et il sortit de l'eau une île qui avait une tonnelle d'or. Schmatrazoum dit
« Installe-toi sous la tonnelle, prends tes aises, repose-toi, mais surveille bien le lac. 3 navires marchands vont voguer jusqu'à l'île et sa marée. Invite les marchands, régale-les, échange-moi contre les 3 merveilles qu'ils transportent avec eux. Le moment venu, ne t'en fais pas, je serai de nouveau à tes côtés. »
Le garde fixe le lac. À l'ouest voguent 3 navires. Sur les navires aussi, on avait aperçu l'île et la tonnelle d'or.
Qu'est-ce que c'est que ce miracle, s'étonnaient les gens. Combien de fois avons-nous navigué dans ces parages sans jamais y voir autre chose que de l'eau? D'où vient cette tonnelle d'or?
Accostons les amis et allons voir. Sur le champ, on jeta l'ancre. 3 marchands mirent une barque à l'eau et ramèrent jusqu'à l'île.
« Bonjour, brave homme !» dirent les marchands.
Le garde répondit.
« Bonjour à vous, marchands étrangers. Soyez les bienvenus, faites comme chez vous, prenez vos aises. La tonnelle a été construite exprès pour accueillir des invités. »
Les marchands s'approchèrent et prirent place.
« Oh lâche, Matrazoum !» crie le garde. « Donne à boire et à manger !»
Une table surgit, toute garnie de boissons et de viande, comme on ne peut en rêver. Ébahis, les marchands n'en revenaient pas.
« Faisons un échange, propose-t-il. Donne-nous ton serviteur et prends à la place une de nos merveilles. »«
Et vos merveilles, qu'est-ce que c'est ?
Regarde, tu vas voir. »
un des marchands sortit de sa poche une petite boîte qu'il ouvrit, et un magnifique jardin tout rempli de fleurs et parcouru d'allées s'étendit sur l'île. Quand il la referma, le jardin disparut. Le deuxième marchand tira de dessous son manteau une hache et se mit à taper. Et voilà un navire. En voilà un autre. Et en voilà 20 autres et 100 autres, avec les voiles, les mâtures, les canons, les matelots. Le marchand donne des ordres. Les navires glissent sur l'onde, tirent au canon, obéissent au doigt et à l'œil. Après s'être bien amusé, il rangea sa hache et les navires s'évaporèrent. Le troisième marchand brandit un cor, sonna par un bout. De l'autre bout sortit une armée. Voilà les fantassins et les cavaliers avec leurs fusils, leurs canons, leurs étendards, des drapeaux. Chaque régiment envoie au marchand son rapport et le marchand donne des ordres. La musique éclate. Tra-ta-ta, tra-ta-ta, tra-ta-ta. Les étendards flottent, les hommes marchent au pas. Après s'être bien amusé, le marchand reprit le cor, sonna par l'autre bout. Et tout disparut à se demander si l'on n'avait pas rêvé. Elle ne serait pas mal, vos merveilles, dit le garde, mais que voulez-vous que j'en fasse? Les armées, les navires, c'est bon pour les tsars, les rois. Moi, je ne suis qu'un simple soldat. Si vous voulez faire un échange, donnez-moi les 3 merveilles à la fois contre mon serviteur invisible.
Tu demandes beaucoup.
Comme vous voudrez. Les 3 merveilles ou rien. Les marchands discutèrent ensemble.
Tout compte fait. Nous n'avons pas besoin de ce jardin, de ce régiment, de ces vaisseaux de guerre. Si nous les échangeons au moins, nous aurons à manger et à boire à bouche, que veux-tu?
Ils abandonnèrent aux gardes leurs merveilles et ils appelèrent.
Hola, Shmatrazoum, veux-tu nous servir en toute loyauté?
Et pourquoi non? Servir l'un, servir l'autre, n'est-ce pas tout pareil?
De retour sur leur navire, les marchands se régalèrent avec tout l'équipage.
Allons, Shmatrazoum, dépêchons!
Tous s'enivrèrent et tombèrent dans un profond sommeil. Entre-temps, le garde, assis sous la tonnelle, songeait.
Et mon fidèle serviteur Shmatrazoum, où a-t-il bien pu passer? Quel dommage qu'il ne soit pas là. Me voilà, maître!
Le garde sauta de joie. Si l'on rentrait à la maison! Il ne l'eut pas plutôt dit qu'il fut saisi par un violent tourbillon de vent et emporté à travers les airs. Chez les marchands, on ouvrit un œil et on voulut boire un coup.
« Hola, Shmatrazoum, verse à boire !»
Mais nul ne répond, nul ne verse à boire. Ils eurent beau crier et tempêter, rien n'y fit.
« Eh bien, messire, nous avons été grugés et volés et roulés par un farceur. Où diable allez le retrouver maintenant? L'île a disparu et la tonnelle avec !»
Furieux, le cœur gros, les marchands hissèrent les voiles et poursuivirent leur voyage.
Par les airs,
le garde regagna son royaume. Il atterrit dans un lieu désert, près d'un lac aux eaux bleues.
« Hola, Shmatrazoum, et si l'on construisait un palais ?»«
Bah, pourquoi non? Il n'y a qu'à dire !»
En un clin d'œil, le palais fut construit. Il l'était 2 fois plus que celui du roi. Le garde ouvrit la boîte et autour du palais s'étendit un jardin tout rempli de fleurs et d'arbres d'essence rare. Assis à la fenêtre ouverte, le garde contemplait son jardin. Tout à coup, à tire-d'aile surgit une tourterelle qui, allant frapper la terre, se transforma en sa jeune épouse. Les voilà qui s'embrassent, qui se cajolent et qui se content leurs aventures. Sa femme lui dit « Depuis ton départ, je n'ai cessé de voler à travers bois et bosquets, comme une âme en peine. » Le lendemain matin, le roi mit le nez à sa fenêtre et dirigeant son regard vers le lac bleu, il aperçut sur la rive un palais tout neuf entouré d'un jardin verdoyant.
« Quel est le malappris qui a osé construire un palais sur ma terre ?»
Les messagers courent aux nouvelles et reviennent en disant que ce palais a été construit par le garde qui y vit avec sa femme. Ceci acheva de fâcher le roi qui ordonna que l'on réunisse une grande armée.
qu'elle gagne le rivage, qu'elle saccage le jardin, qu'elle détruise le palais de fond en comble, qu'elle fasse périr de mort cruelle le garde et sa femme. Mais ces préparatifs n'échappèrent pas au garde, qui s'empara de sa hache. Une fois, un navire surgit. 100 fois 100 navires surgirent. Puis il brandit son corps, le mit à sa bouche, sonna une fois. Et les fantassins dévalèrent. Sonna deux fois. Et ce fut le tour des cavaliers. Voilà les commandants qui se précipitent pour demander des ordres. Le garde ordonne d'engager la bataille. Aussitôt, la musique joue. Les tambours résonnent, les régiments avancent, l'infanterie bat les soldats du roi, la cavalerie l'appuie, fait des prisonniers, les canons bombardent la capitale. Le roi voit son armée en déroute. Il veut payer de sa personne, il court à la tête de ses troupes. Mal lui en prit. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'il était un homme mort. Après la bataille, le peuple se rassembla et demanda aux gardes de prendre tout le royaume entre ses mains. Il accepta, devint roi, et sa femme reine. Fin du conte d'Afanassiev, va je ne sais où, rapporte je ne sais quoi. Page 151. Laisse cette cassette se dérouler jusqu'au bout et prends la deuxième cassette où tu trouveras deux autres contes d'Afanassiev dont s'est inspiré Gripari pour écrire son conte moderne, je ne sais qui, je ne sais quoi. À tout à l'heure.